Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Nous reprenons donc toujours avec Yvan Rioffol. Bonjour Yvan Rioffol, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends parfaitement, et vous?
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les mardis. Alors, évidemment, le premier sujet que vous vouliez évoquer, c'est cette guerre. Alors, quelles leçons tirez-vous donc des 10 premiers jours, finalement, de cette guerre?
Écoutez, je m'intéresse surtout aux réactions françaises pour l'instant, et les réactions françaises révèlent ce que nous sommes devenus. Et ce que nous sommes devenus n'est pas très brillant. C'est-à-dire que cette guerre complexe, évidemment critiquable, confirme, pour ce que j'ai pu en observer, l'hystérisation des opinions en France. C'est-à-dire que le débat serein et argumenté est devenu, sinon impossible, du moins quasi exceptionnel. Et je remarque d'ailleurs que même à Paris, les principaux candidats ont refusé eux-mêmes de débattre ensemble. Donc cela dit quand même quelque chose de l'intolérance qui s'est installé au cœur du débat public, et c'est cette intolérance qui m'inquiète le plus, alors même que l'état du monde, et singulièrement l'état de la France, l'état de la société, mériterait tout au contraire des confrontations d'idées, des confrontations d'arguments et des respects mutuels. Or, rien n'est plus exaspérant, rien ne m'exaspère plus, en tout cas, que ces postures d'autorité qui servent d'arguments en général, et aux pro-guerres et aux anti-guerres, et qui croient détenir chacun leur vérité jusqu'à manipuler les faits. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile. J'ai déjà expliqué chez vous la semaine dernière quelle était ma position sur ce sujet. Elle consiste très humblement, dans le fond, à épouser les vœux des Iraniens qui, majoritairement, veulent être délivrés du totalitarisme islamique qui les occupe depuis maintenant 47 ans. Donc je me tiens à cette position, et je tiens d'ailleurs le même raisonnement vis-à-vis des Libanais qui eux aussi n'en peuvent plus d'être pris en otage par le Hezbollah iranien, et y compris par les chiites eux-mêmes, en tout cas si l'on en croit les témoignages qui nous arrivent.
Après, Yvan Rioffol, en l'occurrence, on parlait justement avec des experts de la situation libanaise ces derniers jours, et tous évidemment sont exaspérés par cette branche armée du Hezbollah, mais beaucoup nous disent aussi que la réaction d'Israël est tout à fait disproportionnée, justement, et que Israël en fait profite finalement de l'attaque du Hezbollah pour aussi avancer ses pions.
C'est le fond du débat. Israël se considère comme étant en légitime défense depuis le 7 octobre 2023, et le Hezbollah, effectivement, attise les répressions. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, le Hezbollah est en train de se rendre insupportable à tous ces Libanais, également ces Libanais chiites. Donc moi, j'appuie, pour l'instant, je comprends la position israélienne. Et je pense d'ailleurs que nous vivons un moment historique qui consiste à peut-être en arriver à en finir précisément avec ce totalitarisme du 21e siècle, qui est effectivement ce totalitarisme des mollahs, cette islamisation qui s'est infiltrée au cœur des sociétés occidentales et singulièrement en France. Vous savez, à l'époque du Covid, j'avais essayé de batailler contre cette obligation de penser et ces mesures liberticides qui avaient été prises sous la pression d'un État hygiéniste. Et je me rends compte que, malgré tout, à nouveau aujourd'hui, on est repris dans ce même piège, effectivement, d'une obligation de penser et qui ne voit pas quelle est l'urgence qu'il y a aujourd'hui à débattre. Et moi, je n'aime pas, en tout cas, je n'aime pas les forfanteries de Donald Trump, qui est en train d'annoncer qu'il a déjà gagné la guerre. Je trouve que son secrétaire d'État à la guerre également est beaucoup trop brutal et qu'il humilie inutilement l'adversaire. Mais je n'aime pas non plus je préfère la sobriété des commentaires de Tzahal, qui se contente simplement de dire qu'il a atteint ses buts militaires sans en rajouter. Mais pour autant, je n'aime pas non plus les commentaires et de ceux qui défendent le régime des mollahs et la pauvreté des arguments de ceux qui, en fait, au prétexte qu'ils seraient et anti-sionistes et anti-atlantistes, sont prêts aujourd'hui à défendre les mollahs et toute cette idéologie totalitaire. Et c'est cet aveuglement qui me préoccupe. C'est pour cela que je trouve que Dominique de Villepin devient la caricature de la plus présentable de ce courant d'opinion qui envahit les réseaux sociaux. Et ces gens-là sont prêts à prédire a souhaité l'échec de Trump et de Netanyahou, aveuglés qu'ils sont effectivement par cet anti-atlantisme et cet anti-sionisme. Je trouve effectivement que cette posture est idiote, car d'abord parce qu'elle s'aveugle effectivement sur cette menace que représente l'islamisme en France, le totalitarisme islamiste en France, et surtout elle ne voit pas que la France également a au cœur de son... De sa société à ce même ennemi qui est pour l'instant laissé, si je puis dire, laissé en paix par Emmanuel Macron.
Et alors justement, Emmanuel Macron, parlez-nous-en, qu'est-ce que vous pensez justement de ses réactions, de ce qu'il fait depuis 10 jours ?
Je lui reproche toujours la même chose, c'est son manque de clarté, son manque son ambiguïté. Il joue le matamor face à Poutine, mais il se défile face au mollah. Je pourrais résumer ma position ainsi. En expliquant que ce n'est pas sa guerre et que le droit international a été violé par les États-Unis et Israël. Mais je rappelle malgré tout que le droit international n'a jamais été non plus appliqué par les Iraniens, par les Mollahs, quand ils ont eu à tuer leur propre peuple, quand ce peuple se révoltait. En réalité, cette guerre dont Emmanuel Macron dit qu'elle n'est pas sa guerre, cette guerre est bien notre guerre, parce que précisément, et le chancelier allemand l'a bien compris, cette guerre est une guerre qui défend des impératifs occidentaux, me semble-t-il. Et je m'étonne d'ailleurs qu'on ait autant de mal à se faire comprendre sur les buts de guerre qui sont en tout cas soutenus par ceux qui veulent simplement défendre une société libre. Et quand je vois...
Mais attendez, Yvan Rioufol, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'objectif d'Israël et des États-Unis, c'est de libérer le peuple iranien ?
Oui. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que de mettre en doute effectivement cette volonté qu'ils ont en tout cas de libérer le peuple iranien. En tout cas, le peuple iranien ne demande qu'une chose, c'est d'avoir ses libérateurs. Encore une fois, moi, je me mets à l'écoute du peuple iranien. Je n'entends pas le peuple iranien dire aux Américains, surtout, ne venez pas nous libérer, ni encore moins aux Israéliens. Donc ensuite, on peut bien sûr, par un biais ou par un autre, on peut laisser comprendre que ceci est un récit qui est imposé. Moi, encore une fois, ma démarche est une démarche pragmatique qui est de me mettre à l'écoute de ce que disent les peuples. Et pour l'instant, ce que disent les peuples, c'est ceci. Enfin, moi, que j'ai mal compris ce que disent les peuples. Et moi, j'en reviens à ma marotte parce que je trouve que c'est le fond du problème aujourd'hui. C'est que cette incapacité à vouloir entendre des témoignages ou à vouloir voir simplement des faits confirme une pente totalitaire qui est celle de notre propre société et qui est aggravée par le président de la République lui-même qui se comporte de plus en plus comme un monarque républicain qui dénonce une internationale réactionnaire chez les autres plutôt que l'internationale djihadiste qui menace non seulement naturellement les Iraniens, les Libanais, mais qui menace les Français eux-mêmes dans son propre pays. Or, c'est quelque chose qu'il ne veut pas voir. Et d'ailleurs, on a vu que même lors de la journée de la femme, c'était avant-hier, le collectif Némésis a été jugé indésirable parce que ces jeunes femmes dénoncent précisément ce machisme islamiste-là. Donc, cela révèle effectivement quelle est la pleutrerie, me semble-t-il, encore une fois, de toute une partie d'une opinion qui ne veut pas se confronter et ça me semble très révélateur de de la peur qu'impose aujourd'hui l'extrême gauche dans le débat public, dans le fond. Et j'accuse Macron, pour être encore plus clair, de ne rien voir du risque totalitaire auquel il participe en récusant ses contradicteurs.
Yvan Rioufol, ce que répliquent beaucoup de personnes à ça, on va parler hier par exemple avec Charles d'Anjou, c'est que... d'une certaine façon, il faut dire aussi que les Iraniens sont chiites et le djihadisme, le totalitarisme islamique tel qu'on le connaît en Europe depuis 30 ans est quasi exclusivement sunnite. Donc c'est pas exactement le même peuple. Et à côté de ça, effectivement, certes, il y a quelques décennies, hein, on se rappelle tous avec horreur de l'attentat du Drakkar, par exemple, ou d'autres. Mais il faut admettre aussi que depuis le début de ce millénaire, l'Iran n'a jamais représenté une menace directe pour la France de près ou de loin.
C'est vous qui le dites. Pas une menace directe pour la France, de près ou de loin peut-être, mais une menace directe en tout cas pour une partie des pays se raccrochant aux pays occidentaux et singulièrement d'Israël. Il suffit d'abord d'entendre ce que dit l'Iran depuis maintenant sa création, enfin l'Iran des Mollahs depuis sa création, en disant qu'il veut rayer de la carte Israël. Il suffit de voir quel était effectivement l'état d'avancement de son programme nucléaire. On nous dit qu'il faut croire ces gentils Mollahs quand ils disaient qu'ils n'avaient aucune intention de faire une bombe nucléaire. On a appris qu'il y avait, j'ai pris des notes tout à l'heure, 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui permettait de créer 10 bombes atomiques, excusez du peu. Donc je veux bien en entendre que le régime des Mollahs était un régime simplement religieux et sympathique, mais c'est,
non, je suis absolument pas,
un récit fictif que je ne crois pas du tout. Moi, je m'en tiens aux faits. Pardon, vous dites ?
Non, je disais, c'est absolument pas ce que je dis, hein, je précise. Hein, comme, oui.
Pardon. Non, bah, d'accord, mais en tout cas, c'est ce que j'entends aussi. Et donc, je pense qu'il faut être réaliste et ne pas se laisser abuser. Nous sommes face à, encore une fois, je reprends l'argument qui était au centre de ce que je voulais développer ce matin. On est au cœur d'une guerre menée contre un nouveau totalitarisme, comme il y a eu le totalitarisme nazi, communiste, maoïste, etc. Ce totalitarisme est un totalitarisme islamique sur lequel il ne faut pas baisser les yeux. Or, pour l'instant, je m'aperçois que, en tout cas concernant les autorités françaises, la France baisse les yeux et n'ose pas s'affronter à cette hydre qui est une hydre qui a pris ses sources au cœur du système djihadiste iranien. Voilà ce que je veux en dire.
Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin, justement, effectivement, pour avoir pu développer votre point de vue sur ce sujet. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour ce monde autrement, je vais céder la parole à Richard Decez qui va accueillir Mériadec Raffray. Mériadec Raffray, donc rédacteur en chef de VA Monde, auteur de nombreux ouvrages, et vous nous parlez du Liban ce matin.
Et oui, Mériadec Raffray, vous nous parlez du Liban ce matin.
Pour changer,
on a beaucoup parlé d'Irak, on a beaucoup parlé d'Iran, on a beaucoup parlé des États-Unis. On s'est dit qu'il serait bon, en fait, de se focaliser sur ce pays qui est vraiment une espèce de dommage collatéral façon tsunami par rapport à cette guerre israélo-iranienne. Je dis israélo-iranienne puisque, comme Donald Trump a expliqué que la guerre s'arrêterait une fois que Netanyahou aurait décidé qu'elle s'arrête, voilà, donc je pense qu'il est temps d'admettre que entre Marco Rubio et Donald Trump, l'origine de la guerre contre l'Iran est clairement Israël, et que la manière dont Israël profite de cette guerre contre l'Iran pour assaillir le Liban est quelque chose aussi de proprement iranien et d'assez peu américain.
Alors, rappelez-vous, il y a quelque temps sur votre antenne, je disais, Richard, il faut parler du Liban, même si le Liban n'est pas en ce moment à l'actualité. Je dis ça il y a quelques mois, et j'avais dit, il faut s'occuper du Liban, même quand on ne parle pas du Liban, car c'est un sujet d'abord dont on a le devoir, journalistes, on va dire de la droite chrétienne, pour faire simple, de parler. C'est un devoir d'en parler, un devoir pour des Français, et ce sujet va revenir à l'actualité. La dernière fois que j'ai été au Liban, c'était pour la venue du pape il y a quelques mois, et j'avais terminé mon grand reportage sur une note pessimiste, en disant on parle du retour de la guerre au Liban. Je ne pensais, c'était au mois de, c'était il y a quelques mois, et les gens, les experts sur place brandissaient la date de la fin de l'année comme une espèce d'ultimatum au vu des déclarations israéliennes qui montaient en puissance, en disant si vous n'accélérez pas le désarmement du Hezbollah, nous allons terminer le travail. Et en fait, déjà à l'automne et à l'hiver, cet hiver, les bombardements israéliens dont personne ne parlait montaient en puissance, n'avaient jamais cessé, ils avaient juste cessé avec la pause pontificale, mais ils avaient aussitôt repris, n'avaient jamais cessé, et montaient progressivement crescendo en puissance, dans cette logique en fait de ciblage de toutes les traces possibles du Hezbollah au Liban. Et je ne vais pas faire de la grande géopolitique, je constate simplement que dans la nuit du 1er au 2 mars, 2026, ceux qui ont fourni sur un plateau le prétexte qu'attendaient les Israéliens pour véritablement refaire une guerre au Liban, ce sont les gens du Hezbollah, qui ont dans un réflexe soit suicidaire, soit de martyr d'Allah, décidé de tirer 6 roquettes sur Israël. Et depuis, chaque jour, les gens du Hezbollah ciblent non seulement le nord d'Israël, mais vont cibler jusqu'à la banlieue d'Haïfa, la banlieue de Jérusalem, la banlieue de Tel Aviv, avec des roquettes. C'est évidemment dans cette même logique de la République islamique d'Iran qui pose une riposte dos au mur, qui riposte à l'attaque israélo-américaine. Ils sont dans une logique jusqu'au boutiste. Je cite dans le papier que j'écris, qui sort ce mercredi, je cite ce que m'avait dit l'actuel chef du Hezbollah, Naïm Qassem, que j'avais rencontré en 2023 au Liban. Et je lui avais dit, on vous accuse d'être les marionnettes de l'Iran. Et celui-ci avait véritablement dénigré en disant, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de justification. Nous avons un lien théologique avec l'islam chiite et la Rome de l'islam chiite qui est Téhéran, et ses papes, et son pape, en l'occurrence le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui vient de terminer en fumée et qui est sans doute monté au paradis des sept vierges. Nous sommes d'abord nationalistes, nous sommes libanais et nous travaillons pour la cause du Liban. Et bien évidemment, les experts réfutaient cet argumentaire, ces éléments de langage. Je constate de manière totalement froid et rationnel qu'ils avaient raison, puisque là, le Hezbollah a pris une décision directement téléguidée par l'Iran pour se suicider pour la cause de l'Iran, parce que c'est un véritable suicide.
Enfin, il s'agit moins d'ailleurs d'un suicide du Hezbollah que d'une action profondément anti-libanaise.
Parce que l'un conduit à l'autre. Vous avez raison, c'est un suicide pour eux. Et c'est une action évidemment anti-libanaise qui va conduire peut-être, enfin on ne l'espère pas, mais peut-être à la destruction d'une bonne partie du Liban. Cette destruction dont rêvaient en fait les tacticiens israéliens, qui d'ailleurs ne s'en cachent même pas, puisqu'ils disent aujourd'hui qu'ils veulent faire de la banlieue sud de Beyrouth, qui est le fief du Hezbollah chiite, le fief politique et démographique du Hezbollah chiite, le quartier de Dariès, pour ceux qui connaissent, coincé entre le centre historique du Liban et l'aéroport. Ils veulent transformer ce quartier en un nouveau Gaza. Ils veulent raser des kilomètres carrés entiers de ce quartier. C'est commencé, le travail est commencé. Pareil, de même, au sud du Liban, où ils avaient, lors de la guerre de 2024, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux dans les dates, de 2024, qui s'était terminée par un cessez-le-feu le 27 novembre, ils en avaient profité pour modeler en fait un no man's land de plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire libanais, de l'autre côté de la Blue Line, qui est cette ligne qui fait office de frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban. Et ils avaient systématiquement détruit tout ce qui pouvait, de près ou de loin, ressembler soit à des caches ou des tunnels du Hezbollah, soit à des positions que l'Hezbollah aurait pu temporairement utiliser pour tirer de l'autre côté de la frontière. Donc ils avaient fait cette même logique. On peut pour les auditeurs, comme les à la manière un peu des Américains au Vietnam avec le napalm, qui créaient des camps et ensuite façonnaient en fait dans la jungle, brûlaient la jungle pour façonner en fait un glacis, voilà, je cherchais le terme, un glacis leur permettant d'anticiper toute réactivité du Vietcong. Ben, c'est exactement la même chose ici, sauf que c'est dans des zones pleines de villages. Et d'ailleurs, on a appris hier ou avant-hier la mort du père Pierre El-Rai, le curé de Klaya. Klaya, c'est un tout petit village qui est au nord de ce qu'on appelle le doigt de Judée, vous savez, cette partie d'Israël au nord-est qui remonte véritablement comme un doigt dans le Liban. Et on est à 2 km de la frontière, du côté des fermes de Metoula, pour ceux qui suivent ça de très près. Eh bien, il y a eu un bombardement israélien et le curé, le père El Raya, a été la victime collatérale de ce bombardement qui, en une semaine, qui en une semaine, j'en termine là, selon les informations de l'Orient Le Jour, totalise 486 morts, 1313 blessés et un nombre de déplacés faramineux. 350 000 personnes, c'est 20% de la démographie libanaise. Imaginez aujourd'hui que l'ensemble de la capitale est transformé en camp de réfugiés à ciel ouvert. Je vous laisse poser votre question.
Merci d'abord d'avoir rappelé les chiffres. Effectivement, je voudrais juste revenir sur un point, non pas minuscule, mais tragique. Radio Courtoisie s'est fait l'écho, justement, de tous ces bombardements israéliens, notamment à travers des experts comme Benjamin Blanchard et son association SOS Chrétiens d'Orient, puisque eux sont présents sur le terrain en Syrie et au Liban, et donc qui peuvent voir les bulldozers israéliens terminer le travail des mortiers et des missiles israéliens, puisque donc une fois qu'un village a été évacué, il est ensuite rasé, et y compris les édifices de culte, y compris les équipements culturels, etc. Donc on sait que le Liban était dans le viseur d'Israël. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est la force du Hezbollah et est-ce que l'annihilation du Hezbollah mérite que ce soit l'ensemble des Libanais qui soient à ce point-là persécutés, puisque vous l'avez dit, 350 000 réfugiés, c'est-à-dire des gens à qui très généreusement Israël a expliqué on va supprimer vos immeubles, vous avez intérêt à vous tirer, et quasiment 500 morts. Les journaux en permanence nous expliquent qu'il y a un mort à Kiev, un mort à Oman, etc. Là, évidemment, le décompte des morts libanais a l'air de moins occuper les manchettes et les gros titres des journaux français et même étrangers. Pourquoi considère-t-on si facilement que le Liban peut en fait disparaître?
Le Liban, effectivement, c'est la variable d'ajustement, c'est l'élément qu'on passe par pertes et profits. Alors, il y a deux manières de regarder le Liban. Soit on se met du côté libanais, soit on se met du côté israélien. Et je vais commencer par le côté israélien. Je vais être totalement manichéen et vos auditeurs pourront me lyncher à la sortie, il n'y a pas de problème.
Faites la queue.
Voilà, faites la queue. Du côté israélien, l'argument est imparable. Ces gens-là menacent la vie de notre population au nord d'Israël. Ils tirent d'ailleurs dans nos grandes villes, et donc Israël en profite pour rétablir sa sécurité sur la durée, c'est-à-dire qu'il décide aujourd'hui et d'autant plus qu'il a et il pense que le droit est d'autant plus dans son bon droit que le 27 novembre 2024, le cessez-le-feu comportait deux clauses. La première, c'est le retrait complet d'Israël de l'autre côté de la frontière, des troupes qui avaient franchi la frontière, ce qui a été en partie réalisé, mais de l'autre, un désarmement complet du Hezbollah au sud Liban, c'est-à-dire cette bande de 30 km de large sur, même pas 100 km de long, j'ai plus les chiffres en tête, 80 km de long, qui est cette espèce de no man's land dans lequel les FAL, les forces armées libanaises, s'étaient engagées en fait à désarmer. Et donc le président Aoun, le président libanais, avait communiqué en disant que enfin un plan, en début d'année, enfin un plan avait été mis en place, ce qui était la première fois depuis que le Hezbollah existe comme force armée au Liban des années 80 que les autorités libanaises officiellement disaient qu'elles allaient désarmer le Hezbollah, ce qui était un grand pas politique. Que deuxième étape de la communication, ce désarmement au sud de l'Italie avait été réalisé, et Israël dit aujourd'hui, voyez, vous nous avez pris pour des pigeons, pour des jambons en fait, vous n'avez pas fait le boulot, on vous a fait confiance, on a fait cette trêve, on a arrêté les combats, et maintenant donc nous sommes dans notre bon droit.
Sauf que les combats en fait n'ont jamais été arrêtés, mais vous avez parfaitement raison sur un point, c'est très compliqué pour un Libanais de prétendre que le Hezbollah n'est pas un parti libanais, c'est très compliqué pour un Libanais de prétendre que le Hezbollah n'est pas en train d'attaquer Israël. En fait, on voit bien que du côté d'Israël, il y a un parti libanais qui, depuis le Liban, attaque son pays. Et donc, on se demande au nom de quoi Israël ne rétorquerait pas, ne répondrait pas, n'engagerait pas des représailles.
Voilà. Et maintenant, maintenant, il faut regarder ça du côté libanais. Et c'est là où ça devient assez intéressant et ça a énormément évolué. C'est qu'au départ, et j'étais de cela, je disais, attention, il y a deux Hezbollah. Et qu'on le veuille ou non, tout le monde sait, tous les experts ici qui défilent sur vos plateaux savent très bien et l'expliquent, que le Hezbollah est une humanité terroriste qui a été inoculé dans les années 80 directement par les gardiens de la révolution qui ont commencé à exporter le terrorisme d'État pour déstabiliser Israël et se façonner un glacis régional, un bouclier régional de protection. Voilà, ça, c'est clair, c'est net, c'est dit, on va pas revenir là-dessus. Mais à l'aune de toutes les déstabilisations de l'État libanais, ce noyau, cette métastase terroriste, s'est peu à peu développé jusqu'à progressivement devenir un des éléments politiques incontournables de la vie libanaise. Et à telle enseigne que jusqu'à encore aujourd'hui, près de la moitié en fait des parlementaires élus à l'Assemblée nationale libanaise sont des gens du Hezbollah ou affiliés ou de l'alliance du Hezbollah. Donc si on fait de la réelle politique, il faut faire de la réelle politique. On peut pas dire d'un coup de baguette magique on efface ces gens-là, ils n'existent plus. Ces gens-là en fait ont été élus par des gens qui ont plus ou moins voté de manière libre et indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est que le Hezbollah est connu pour distribuer des prébendes, pour injecter de l'argent dans l'économie, dans les territoires chiites. Bref, les gens, les familles ont besoin du Hezbollah pour vivre. C'était ça la réalité. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on soit pas d'accord avec ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs des gens comme par exemple Sami Gemayel, qui est le patron des forces libanaises, des Katayeb, l'héritier en fait du grand Gemayel, assassiné parce qu'il avait fait d'ailleurs un accord avec les Israéliens, avait dit maintenant que le Hezbollah est à terre. C'était lors de la trêve, il a dit maintenant que le Hezbollah est à terre, je ne suis pas de ceux qui veulent, qui disent maintenant qu'il faut lui marcher sur la tête, il faut au contraire lui expliquer qu'il doit se normaliser, lui tendre la main s'il se normalise pour l'intégrer dans l'évolution politique du Liban.
En fait, faire en sorte d'opérer cette métastase terroriste et de garder le Hezbollah politique en supprimant le Hezbollah armé.
Couper les graines terroristes et ne récupérer que cette entité politique représentant majoritairement un tiers des habitants de ce pays, à savoir les gens chiites. Et en fait, c'est là où le Hezbollah, en fait, je dis, s'est suicidé. Bien sûr, il a été anti-libanais quand il a ouvert le feu la semaine dernière sur Israël. Au lieu de considérer son affaiblissement incroyable du fait de la guerre, cette guerre de l'automne 2024 avec Israël, il a obéi aux ordres directs de l'Iran et il vient de se suicider. Et là, il n'y a plus. Et là, si vous voulez, les chrétiens libanais, la majorité des chrétiens libanais disent aujourd'hui, nous étions incapables d'achever le travail qu'avait commencé Israël. Israël finit le travail que nous étions incapables de faire. C'est ce que vous disent les responsables chrétiens libanais aujourd'hui, alors que ce sont les premiers à voir les bombes libanaises casser à nouveau leur pays. Donc, les bombes israéliennes, pardon. Donc c'est pas moi qui le dis, ce sont les chrétiens libanais eux-mêmes qui le disent. Et d'ailleurs, et c'est là que je voulais ajouter cette précision tout à l'heure, c'est que à l'automne 2024, quand il y a eu c'est le retour de ce que j'ai appelé la troisième guerre israélo-libanaise, il y a eu à nouveau cette vague de réfugiés qui est montée vers le nord. J'avais fait des papiers pour expliquer le formidable élan de solidarité, de générosité des chrétiens libanais qui ont ouvert leur maison, qui ont ouvert leur dortoir, qui ont ouvert les cours de leurs écoles privées à toutes ces familles chiites sur le bord de la route. Parce que c'est ça qui est touchant, c'est vraiment l'âme des chrétiens libanais. Ils ont une générosité que nous, on a perdue, en fait. Ils ne sont pas individualistes dans le malheur. Et là, cette fois, c'est différent. Parce que les témoignages que j'ai recueillis sont très clairs. Il n'y a plus aujourd'hui cette volonté des chrétiens du Nord, des Libanais du du Nord, des chrétiens en particulier, mais aussi des sunnites, d'ouvrir leurs portes et leurs écoles aux chiites qui fuient les bombardements du Sud, parce qu'ils ont beaucoup trop peur que dans ces familles malheureuses, ces familles qui ont pris les routes, ne se cachent des barbus, des miliciens qui essayent de fuir les bombes d'Israël et qu'ils se prennent une bombe au passage. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à quelques encablures sur la colline de Baabda, là où se situe le palais présidentiel, un quartier, c'est le Neuilly local si vous voulez. Il y a un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Confort et qui, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, a vu s'abattre sur lui un missile israélien qui a cassé tout un étage. Il y avait effectivement un barbu qui s'était caché parmi les réfugiés accueillis dans cet hôtel.
Donc vous voyez
que les choses évoluent, sont différentes aujourd'hui.
Les choses évoluent et on voit bien qu'effectivement les Libanais qui ne sont pas du Hezbollah, les Libanais qui ne sont pas chiites commencent à dire on est un État multiconfessionnel, mais voilà, il y a une confession qui est en fait une source d'ennui incroyable. Ça, c'est cette évolution de la société libanaise. Après ça, voilà, peut-on considérer qu'il est légitime de la part d'Israël de considérer que tant qu'il y a la possibilité d'un hezbolliste quelque part, tant qu'il y a le soupçon d'un hezbolliste égaré au milieu de 1000 personnes qui ne le sont pas, qu'un déluge de feu doit s'abattre sur ce hezbolliste.
Alors là, vous,
et
là,
avec
vous...
des dommages collatéraux, comme on dit pudiquement, autrement dit, le fait de ravager en fait,
là,
complètement
vous
le pays.
Vous interrogez la doctrine de la guerre israélienne. C'est la même doctrine qui, en 82, a poussé l'ancien premier ministre israélien, dont le nom m'échappe, qui était un général
Sharon,
voilà, merci Ariel Sharon, à positionner sur le sud de Beyrouth des unités entières d'artillerie et à ouvrir le feu comme jamais ils avaient ouvert le feu sur des quartiers civils de Beyrouth. On est en 82. Et d'ailleurs, j'avais noté à l'époque que Sharon avait dit « Nous avons une fenêtre de tir de quelques jours pendant lesquels l'opinion publique internationale n'a pas encore compris ce que l'on faisait et donc on peut tout casser en toute impunité. » Et puis quand les hurlements de la communauté internationale commenceront à retentir chez nous, eh bien nous nous arrêterons. Donc c'est une doctrine qui est très ancienne, qu'il est légitime évidemment d'interroger. C'est cette même doctrine qui a été mise en œuvre à Gaza, qui a permis aux Israéliens, enfin qui a eu pour effet de raser, de transformer Gaza en un champ de ruines. Et c'est à l'évidence cette doctrine que les Israéliens veulent employer aujourd'hui de manière totalement décomplexée, puisque je le répète, les ministres eux-mêmes disent qu'ils veulent faire de Beyrouth Sud un nouveau Gaza. Donc les choses sont très claires, très nettes. Plutôt que d'interroger la doctrine israélienne, Richard, pourquoi n'interrogerions-nous pas ceux qui seraient en mesure d'influer cette doctrine israélienne? Par exemple les États-Unis, par exemple la France. Pourquoi nous ne poserions-nous pas la question, que fait la France, que font les États-Unis?
La France est à Chypre parce que Emmanuel Macron est traumatisé. Un drone s'est abattu sur une base anglaise à Chypre et donc il est nécessaire que le président de la République française laisse de côté Beyrouth et aille à Chypre s'exciter sur le fait qu'un drone ait explosé sur un aérodrome.
L'état des lieux est simple. Les Américains se fichent royalement de ce que les Israéliens peuvent faire au Liban. Premièrement, ils sont occupés ailleurs. Quant aux Français qui devraient avoir une influence, cela fait bien longtemps qu'ils ne sont incapables de s'opposer au dessein guerrier de Tsahal. Je vous rappelle qu'en 83, lors de l'attentat du Drakkar, finalement quelques mois plus tard, les forces françaises ont repris le bateau et le Liban a sombré dans la guerre. Et aujourd'hui, nous avons donc le président Macron a dépêché en Méditerranée orientale toute une armada, il faut bien le reconnaître, une prouesse d'ailleurs technique de la flotte française dont le groupe aéronaval était positionné en Baltique et en quelques jours à coup de 1000 km par jour a réussi à arriver en Méditerranée orientale où le président est allé le voir. Donc c'était hier, il était à bord du Charles qui était au large de Chypre. Cette 42 000 tonnes de dissuasion, de diplomatie dissuasive, pour reprendre la formule kissingerienne. Il est évident que la France ne va pas s'opposer militairement à l'opération israélienne au Liban. On n'en a pas les moyens, elle n'en a pas la volonté. Mais ça va même plus loin, c'est la perte de l'influence française qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle se mesure à nouveau de la même manière qu'en 1983, c'est qu'à nouveau les Français sont les otages de la situation. Je rappelle ou je signale à vos auditeurs qu'il y a toujours la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui date de 1978 ou 1975, et parmi cette force il y a ce qu'on appelle un élément de réaction rapide vraiment militaire, qui est armé par les Français, qui se trouve au nord de la Blue Line, à un endroit qui s'appelle... le nom m'échappe. Bref, il y a à peu près 700 Français du 1er régiment de hussards parachutistes qui sont aujourd'hui les otages de la nouvelle guerre d'Israël. Donc la FINUL, c'est à peu près 10 000 hommes de casque bleu qui continuent à faire des patrouilles et qui vont évidemment ne pas s'opposer au rouleau compresseur israélien qui se prépare à nouveau envahir le Liban. Et vous avez ces 750 hommes français, militaires français, qui sont les otages d'une situation qu'ils doivent subir, car évidemment ils n'auront pas, ils n'ont pas ni la force et ils n'auront évidemment pas non plus les ordres de s'opposer à un quelconque dessein israélien au Liban. On en est là aujourd'hui, c'est la réalité. En fait, on touche là du doigt. On peut être en colère face à la réaction israélienne, bien sûr. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la France là montre là à nouveau son absence, en fait, son absence d'impact sur une scène sur laquelle historiquement elle était influente et elle devrait avoir un poids. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la France remplace cette absence par une gesticulation de communication militaire. Cette gesticulation, c'est Emmanuel Macron qui va faire de grandes déclarations sur le pont du porte-avions hier, en expliquant que la France est au rendez-vous de l'histoire, qu'elle n'a pas été invitée dans la guerre israélo-américaine, mais qu'elle s'y invite de manière défensive pour à la fois peser sur le Liban. Je reprends les éléments de langage d'Emmanuel Macron, pour à la fois peser sur le Liban, être en mesure d'évacuer nos ressortissants. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'à côté du porte-avions, il y a un porte-hélicoptère d'assaut qui s'appelle le Tonnerre, qui est un navire en fait de débarquement, mais qui est en mesure d'embarquer évidemment des centaines de nos ressortissants. Ils sont plusieurs dizaines de milliers au Liban. Et il y a aussi des frégates qui sont en nombre important et qui permettent, à la fois d'écouter, de surveiller, de voir ce qui se passe dans la profondeur à la fois du territoire libanais, syrien, mais également irakien, mais également en mesure en fait de défendre par leurs armes, par leur système de défense antiaérienne, de défendre des alliés contre d'éventuels missiles iraniens ou du Hezbollah d'ailleurs.
Et d'ailleurs, cette coalition à laquelle Emmanuel Macron dit participer, alors, donc, j'adore ce mot coalition, c'est le truc à la mode. Trump aussi parle de coalition, est censé être actif dans le détroit d'Ormuz une fois que les choses se seront calmées. Donc là aussi, la France vole au secours de la paix une fois que la paix sera déjà acquise.
Alors effectivement, j'ai oublié ce dernier volet de l'action envisagée par Emmanuel Macron, c'est reconstituer, étendre une coalition maritime pour assurer la liberté de navigation à la fois en mer Rouge, mais également, quand les choses se seront calmées, en mer d'Oman. Dans le détroit d'Oman, le détroit et le golfe Persique. L'idée, c'est d'agréger en fait une coalition européenne de bâtiments sur le modèle de l'opération Aspides, qui a fait ses preuves d'ailleurs en 2023. Je vous rappelle qu'en 2023, lorsque les Houthis ont attaqué les navires de commerce en mer Rouge, les Américains ont choisi la voie encore déjà du bombardement des Houthis. Cela n'a pas eu vraiment d'effet, si ce n'est de se mettre à dos un certain nombre de pays dans la région, et la France s'est décalée en disant nous on ne participe pas à ces bombardements, en revanche on va prendre en charge avec nos navires l'escorte des navires qui veulent naviguer en mer Rouge. Et je relisais un rapport de l'Assemblée nationale hier, en quelques mois nos navires ont détruit plus de 800 à 1000 projectiles houthistes qui auraient pu atterrir sur le commerce, sur les bâtiments de commerce. Donc il y a un véritable effet. Et d'ailleurs, depuis un an, il ne se passe plus grand-chose en mer Rouge. Les houthistes disent « nous pourrions à nouveau menacer », mais pour l'instant, ils ne passent pas à l'acte. Bon, c'est ce modèle-là qu'Emmanuel Macron ambitionne de remonter, ou en tout cas, c'est par ce modèle-là qu'Emmanuel Macron ambitionne de se réinviter dans une opération dans laquelle il a dit qu'il n'avait pas été invité, celle des Américains, et de vous à moi, tant mieux. Les premiers invités de cette opération, ce ne seront pas les Européens, ce seront d'abord les Américains. Paraît-il, si j'ai bien compris, que les Américains seraient en mesure, enfin aujourd'hui, bombardent les côtes iraniennes qui bordent le golfe Persique pour être en mesure de faire rentrer leurs destroyers qui accompagneraient ensuite les pétroliers pour sortir du golfe Persique. C'est une autre guerre, celle du pétrole.
C'est une autre guerre, celle du pétrole. Merci beaucoup. Mériadec Raffray, et évidemment le Liban pour le moment est en train de sombrer dans le chaos en étant entièrement livré au bon vouloir d'une part du Hezbollah, va-t-il rendre les armes ou au contraire va-t-il continuer sa folie au service du chiisme iranien, et d'autre part au dépend du bon vouloir des Israéliens dont on a vu avec Gaza que leur pitié était longue à émouvoir. Merci beaucoup Mériadec Raffray.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour suivre la ligne droite, nous rejoignons Victor Aubert. Victor Aubert, bonjour.
Bonjour Alexandre. Bonjour,
alors effectivement, je remplace exceptionnellement Liselotte qui est un petit peu mal, mais rien de grave, je vous rassure, chers auditeurs, que du bonheur au contraire. Alors, Victor Aubert, ce samedi 14 mars se tiendra à Paris le grand congrès du bien commun. C'est un événement que vous portez avec ferveur, et d'ailleurs Liselotte aura la joie d'y animer une table ronde consacrée aux grands enjeux pour l'Église de demain. Mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore l'événement, en quoi consiste exactement ce congrès ?
Alors, cher Alexandre, donc ce congrès, ce n'est pas à proprement parler simplement un colloque intellectuel, hein, c'est aussi un rassemblement, c'est un lieu finalement dans lequel on veut que tous ceux qui veulent servir la cité, qui veulent s'engager au service du bien commun, puissent se retrouver, se rencontrer physiquement, pas simplement derrière un écran, mais en chair et en os. Alors l'objectif, il est double. Le premier, c'est à travers l'héritage intellectuel, philosophique, spirituel de l'Église, donc la doctrine sociale de l'Église, la philosophie d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, et bien essayer d'éclairer le monde dans lequel nous vivons. Et puis, pas simplement rester à une vision purement théorique, abstraite, purement dans le monde des idées intellectuelles, mais d'essayer de proposer des pistes concrètes, des jalons d'engagement dans lesquels chaque homme de bonne volonté, mais aussi tout catholique, peut essayer de s'orienter. Donc, ce n'est pas un colloque, si vous voulez, comme un meeting politique. Mmh. Hein, c'est loin de toutes les logiques d'appareil. Mais c'est pour essayer d'apporter sur le terrain des réponses aux défis du monde de demain.
Alors justement, cette année, vous avez choisi de vous pencher sur les métamorphoses des 25 dernières années. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix finalement très contemporain ?
Eh bien, nous sommes en 2026, donc ça fait déjà un quart de siècle qui s'est écoulé. Et comme il est assez fréquent d'étudier l'histoire sur le temps long, il est plus rare d'analyser justement le présent. Donc là, l'intérêt, c'est d'essayer d'actualiser notre grille de lecture pour éviter justement d'avoir des lunettes trop finalement datées du XXe siècle qui risqueraient de nous rendre aveugles vis-à-vis des nouveaux phénomènes, des mutations qui se sont écoulées dans la société sur ces 25 dernières années. Et souvent, quand vous êtes habitué aux chroniqueurs des plateaux de télévision un peu mainstream, eh bien, vous voyez souvent que justement, ce sont toujours des analyses un petit peu biaisées par cette dimension datée, dans lesquelles voilà, on fantasme la puissance qui a disparu, dans laquelle justement on croit toujours que ces grandes institutions du monde d'avant, l'Église, l'État, les partis politiques, sont toujours puissants alors qu'ils sont souvent à bout de souffle. Et si on prend quelques exemples, hein, le wokisme, l'islamisme, etc., qu'on analyse souvent un petit peu avec la grille de lecture du communisme des années 70, eh bien, on passe un petit peu à côté aussi de certaines subtilités, certains paradoxes, parce que s'ils peuvent apparaître en un sens comme des rouleaux compresseurs, ils sont aussi, par leurs excès, eh bien, des électrochocs qui permettent aussi un certain réveil à travers les différents peuples occidentaux. Donc c'est toute cette lucidité-là qu'on va essayer d'ancrer dans le réel et qu'on va essayer de chercher à travers ce congrès du bien commun.
Alors, de manière très concrète, comment est-ce qu'elle va se dérouler cette journée? Est-ce que c'est un format académique strictement ou est-ce que c'est autre chose?
Alors pas du tout, hein. C'est un événement justement, on essaye d'incarner physiquement le bien commun, donc il va y avoir justement comme une sorte de village d'association où plein de partenaires vont se retrouver, évidemment Radio Courtoisie, mais Renaissance catholique, SOS Chrétien d'Orient, l'ICEP, l'IFP, des productions de cinéma chrétien comme Hermonia, et puis aussi des artisans. Des producteurs et puis nos communautés locales donc basées à Lyon, à Toulouse, en Vendée, qui vont venir faire découvrir des spécialités locales, leur culture régionale. Donc il y a une buvette, il y a des stands de restauration, il y a des dédicaces, il y a des ventes de toutes sortes d'objets voilà, produits de manière artisanale. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de refaire le monde autour d'une bière. Et puis de nourrir également son intelligence, sa réflexion.
Justement, du côté de la tribune, quel est le programme des interventions?
Alors, il y a toute une progression qui a été mise en place. D'une part, c'est d'évoquer donc bien un bilan de ces années 2000-2020, et même avant, finalement, de prendre le quart de siècle qui précède 1975-2000. Alors, il y aura des chroniqueurs habitués de Radio Courtoisie, de ligne droite, hein, Xavier Van Liert, qui va dresser justement le tableau des métamorphoses françaises, Nicolas Mirkovic sur ces nouvelles formes de populisme. On va évoquer l'intelligence artificielle, on va évoquer l'impact du numérique, on va évoquer avec Rodolphe Kart justement le wokisme et ses paradoxes. Julien Rochdy va nous parler justement des défis démographiques. Donc, on va essayer de dresser un premier bilan sur notre société.
Alors, ça, c'est un constat exigeant, mais vous tenez à parler d'avenir et de renouveau pour conclure.
Alors, absolument. On va essayer justement d'intervenir peut-être sur la tension qu'il peut y avoir justement chez les catholiques entre le devoir d'hospitalité et puis le devoir aussi de préserver une identité des patries charnelles. Donc là-dessus, on aura aussi l'abbé Raffray pour décrypter le phénomène justement des nouvelles conversions dans l'Église, le rebond des baptêmes. Raphaël Emma va nous faire une analyse justement sur la génération Z, tous ces paradoxes, sa soif de vérité. Et puis notre président, Arnaud Danjou, va conclure justement sur le projet de civilisation à bâtir, hein, après l'effondrement justement de ce grand mythe du progrès qui a nourri toute la modernité.
Et alors, à qui, dans le fond, s'adresse cette journée, Victor, et comment faire pour vous rejoindre ce samedi?
Alors, ce congrès s'adresse à tout le monde, à la fois aux étudiants, aux jeunes actifs, aux pères, mères de famille, aux prêtres, aux retraités, à vous, chers auditeurs. Hein, l'an dernier, on a été victime de notre succès, on a dû refuser du monde. Donc, effectivement, pour s'inscrire, alors déjà, rassurez-vous, on a pris une salle beaucoup plus grande pour 2026. Et il suffit donc d'aller sur le site d'Academia, academiachristiana.org, et dans la rubrique événements, eh bien vous allez voir justement le congrès, vous pouvez vous inscrire donc pour être sûr d'avoir une place. C'est ce samedi 14 mars à Paris, à l'espace Athènes, rue d'Athènes, près de la gare Saint-Lazare, et toutes les inscriptions se font en ligne, et si peut-être il reste des places, vous pourrez peut-être vous inscrire sur place, mais voilà, je vous invite quand même à prendre de l'avance.
Eh bien ça fait envie en tout cas ce congrès. Merci beaucoup Victor Aubert, et donc on invite tous nos auditeurs à prendre leur place, voilà, pour ce grand congrès du bien commun. Merci beaucoup.
Merci Charles-Alexandre.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles. Alors, on y va, on perd pas de temps. Donc le président de la République a rejoint hier le porte-avions Charles de Gaulle.
Oui, alors si vous ne le saviez pas, il suffit d'écouter la radio.
Bah oui.
Mais lundi, en effet, à la mi-journée, à Chypre, le chef de l'État est allé sur le Charles de Gaulle en mer Méditerranée, au large de la Crète. Eh oui, il est au large de la Crète. Et comme l'écrit le Figaro, le déclenchement de la guerre en Iran sous le feu des bombardements américains et israéliens depuis 10 jours a conduit le groupe aéronaval, parce qu'on l'appelle comme ça, à être redéployé, c'est-à-dire toute son escorte. Hein. Il faut expliquer que c'est composé de frégates de défense antiaérienne, anti-sous-marine et d'au moins un sous-marin nucléaire d'attaque. Alors, il faut savoir afficher une présence militaire quand on veut être capable de peser, explique l'ancien chef d'état-major particulier, l'amiral Rogel. Le groupe aéronaval est un formidable outil de renseignement qui permet d'éclairer toute la zone, à terre comme à la mer, et de disposer d'une appréciation autonome de situation, ajoute l'officier. Alors, grâce à ces radars embarqués, ces avions de renseignement Hawkeye et sa vingtaine de rafales, le GAN est capable de suivre les opérations militaires au Liban et jusqu'en Iran. Il gardera aussi un œil, s'il le faut, vers la mer Noire et la guerre en Ukraine. Il pourra mener, si besoin, des opérations d'interception de drones grâce à ses avions de chasse. Et alors, petite précision tout de même que souligne le Figaro. Dans un premier temps, la marine française déploiera 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et le porte-avions. 2 frégates seront mobilisées pour la mission ASPID de sécurisation du trafic en mer Rouge. Et l'effort est sans précédent, puisqu'actuellement 80% de la flotte française est mobilisée. Il n'est pas soutenable dans la durée.
Eh, impressionnant quand même. Mais selon le site Boulevard Voltaire, eh bien, Emmanuel Macron a préféré en fait délaisser nos alliés traditionnels.
Oui, alors Arnaud Floirac aurait préféré qu'il aille plutôt au Liban, pays frère, je cite, avec lequel nous sommes intimement liés depuis des siècles. Nous en avons déjà parlé. Les Libanais, comme tous les alliés que nous avons abandonnés, puis retrouvés quand ça nous arrangeait, comme les Kurdes par exemple, ne sont pas rancuniers. Ils auraient peut-être accueilli Macron avec leur habituelle cordialité, malgré les réserves croissantes du corps électoral, dont les récents propos du député Sami Gemayel sont un signal parmi d'autres. Bref, si Emmanuel Macron a choisi Chypre, c'est d'abord parce qu'il aurait été ridicule partout ailleurs. Voilà, c'est ce que dit le site Boulevard Voltaire.
Et en France, les prix du carburant s'envolent.
Oui, alors le quotidien L'Opinion titre « Le retour des vieux démons » et Rémi Godot écrit dans son éditorial « Le Moyen-Orient flambe et les Français regardent les prix à la pompe ». Aussitôt, le gouvernement gesticule, la chasse aux abus est ouverte, contrôle, convocation, promesse d'agir vite. Dans l'opposition, l'international interventionniste se régale, le RN exige une baisse des taxes, LFI, un blocage des prix, et en coulisses, les technos gambergent chèque carburant ou TIPP flottante. Et le journaliste de conclure, puisque les chocs mondiaux ont vocation à se multiplier, il devient urgent d'abandonner ce réflexe compassionnel qui fait de toute fièvre inflationniste un scandale d'État. La question n'est pas de courir après le litre à 2 euros, d'ajouter une aide à l'océan des aides, de garantir une protection de papier, elle est de cibler les ménages vraiment fragiles et d'accélérer les alternatives crédibles en un mot, gouverner, à lire dans L'Opinion. Alors, on le sait, le gouvernement a lancé une opération de contrôle dans 500 stations-service pour traquer les hausses abusives, alors qu'il y a près de 10 000 pompes dans tout le pays. Un coup de pub ou un coup de com' pour le gouvernement, en quelque sorte. Alors, ne pas oublier surtout que 17% de nos carburants viennent des États-Unis.
Cher Gilles, pardon de vous interrompre, on dénote déjà plus de 16% de stations-service qui étaient en dehors des clous, paraît-il.
C'est fou. Mais bon, il y en aura d'autres.
Et alors, quelle solution, finalement ?
Oui, pour freiner cette hausse, Sébastien Lernoux, le rédacteur en chef du Parisien, pense que baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques, comme le préconise le RN, représenterait un manque à gagner de plus de 11 milliards d'euros. Ensuite, rien ne dit que les Français verraient la différence. Les distributeurs étant libres de répercuter ou non cette baisse sur les prix, ils pourraient en profiter pour gonfler leurs marges, comme l'ont fait les restaurateurs quand ils ont bénéficié de ce joli cadeau fiscal en 2009. S'il veut prendre une mesure efficace, le gouvernement serait bien inspiré de ressortir plutôt le chèque carburant destiné aux ménages précaires, expérimenté, on s'en souvient, en 2023.
Pardon, mais encore un chèque. Bon, et alors, la maison Hachette fête ses 200 ans.
Oui, alors une page culture, mon cher Alexandre, je sais que vous y êtes sensible. Hachette, aventure éditoriale hors du commun, fête ses 200 ans, titre Le Figaro qui lui consacre une pleine page. Alors, vous savez, du 13 au 15 mars, il y a beaucoup de publicité dans la presse, Hachette Livre célébrera ses 200 ans avec une histoire où l'on croise Jules Verne, la comtesse de Ségur. En deux siècles, la petite scolaire du quartier latin est devenue un géant mondial de l'édition. Vous retrouverez toute l'histoire dans cette page et la seconde moitié du XXe siècle consacrera l'expansion tentaculaire du groupe qui mérita pleinement le sobriquet de pieuvre verte souvent donné. Alors Hachette racheta Grasset en 1954, Fayard en 58, Fasquelle en 1959 qui va devenir Grasset, Stock en 1961. Jean-Claude Lattès en 81, et puis en décembre 80, Hachette passa sous le contrôle du groupe industriel Matra, et l'année suivante, Jean-Luc Lagardère en prit les rênes. En juin 2023, la Commission européenne valida l'acquisition de Lagardère SA pour Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Et Arnaud Lagardère devint alors PDG d'Hachette Livre. C'est cette époque éditoriale qu'Hachette célébrera au Palais Brongniart du 13 au 15 mars, donc c'est à la Bourse, 200 ans après l'audace éditoriale d'un normalien privé des strates qui avait résolu d'enseigner tout de même. Voilà, après Figaro, c'est Hachette qui fait son grand spectacle, son grand barnum.
Et bien, peut-être que je m'y rendrai parce que ça a l'air tout à fait intéressant. Merci, Gilles.
Zone libre.
Bon, alors là, c'est notre petite période de récréation, Gilles.
Non.
C'est,
votre petit bonbon, mon cher Alexandre.
Et exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, on parlait quand même, vous avez quand même beaucoup parlé de cette question de des hausses des prix du carburant. On en a un peu parlé aussi à l'antenne, notamment avec Philippe Charlès il y a quelques jours, avec, voilà, je crois que c'est Liselotte qui a mené cet entretien. Finalement, en fait, je trouvais qu'il y avait une formule qui était assez bonne dans ce que vous citiez. Oui. C'est, en fait, le Moyen-Orient flambe et les Français regardent les prix à la pompe. Mais en fait, les Français regardent les prix à la pompe monter. Oui. Et d'un autre côté, en fait, c'est vrai qu'il y a, en fait, sur ce genre de point, on a l'impression d'avoir aucune marge de manœuvre, aucune possibilité d'action.
Non, et puis surtout que si vous faites un micro-trottoir, vous entendez les consommateurs, ceux qui roulent à l'essence, se demander, mais je comprends pas, on nous a dit qu'on avait 3-4 mois de réserve et il y a une hausse des prix tout de suite. Et c'est là où il y a un décalage avec cette France profonde qui ne comprend pas, en fait, pourquoi les pompistes ne jouent pas le jeu. Parce que c'est vrai qu'on parle de 2 euros, mais il y en a qui sont un petit peu moins que 2 euros quand on cherche, c'est évident.
Oui.
Mais enfin, quand vous avez à débourser un plein pour 100 euros, on se pose quand même des questions.
Mais Gilles, il y a encore une fois un paradoxe là-dessus, qui est que d'un côté, l'État, quand même, je crois, pèse 60% dans le prix de l'essence aujourd'hui avec toutes les taxes. Voire peut-être même un peu plus. D'un autre côté, en fait, on voit que ceux qui se gavent sont, qui se permettent de se gaver, ce sont les pompistes, ce sont donc les entreprises privées.
Ouais.
Donc en fait, on a l'impression que d'un côté l'État pèse lourd, d'un autre côté, en fait, on a deux mauvais côtés. Le mauvais côté de l'étatisme et le mauvais côté du capitalisme, quelque part.
Bah, c'est un peu ça. Et puis surtout que la situation pourrait se décanter si éventuellement il y avait le goulot du étroit d'Hormuz était débouché. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais le président Macron a évidemment fait une déclaration dans ce sens, en espérant que dans le mois ça se décante. Mais on n'est pas les seuls, de toute façon.
Oui.
En Europe, on n'est pas les seuls. Simplement, quand vous voyez que Renault a annoncé hier que 50% de ses voitures seront maintenant à l'électrique, on sent qu'il y a aussi un frémissement du côté des producteurs, des sociétés automobiles.
Et ça, c'est quand même un paradoxe assez fort, qui est qu'effectivement, en Europe, malheureusement, l'automobile électrique prend plus que sur tous les autres continents, il faut le dire, mais ne prend pas encore assez. Et j'ai envie de dire, je ne rejette absolument pas la faute sur les Français, mais c'est plus la faute des constructeurs qui, en soi, n'ont pas non plus des modèles tout à fait adaptés. À côté de ça, ça nous oblige quand même à aller importer des métaux rares, même importer des voitures étrangères, etc. D'un autre côté, l'électricité, c'est la seule chose qu'on a vraiment en excédent en France, quoi.
Exactement. Et puis, c'est une énergie propre. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être reprocher encore à M. Hollande, je crois, qui était responsable d'avoir fermé des centrales nucléaires. Et on en vend beaucoup aux Allemands, notamment.
Oui. Non, mais alors, juste petit détail comme ça, j'ai remarqué qu'un métier, c'est tout bête, mais un métier qui est particulièrement concerné par l'électrique, c'est le métier de taxi, en fait, et de VTC.
Ouais.
Où, en fait, c'est un prix, je crois que les prix de l'essence sont divisés par 8 avec l'électrique sur un mois.
Il y a
diesels beaucoup, hein. Il y a beaucoup de diesel
chez
les taxis.
Les VTC roulent beaucoup à l'électrique et évidemment, si on a la chance de pouvoir recharger son véhicule chez soi, c'est très très intéressant.
Et
si vous chargez dans les bornes publiques, c'est une catastrophe.
C'est-à-dire qu'en fait, un plein de manière générale coûte quelque chose comme 5 euros ou 10
euros
au lieu de 60 ou 70.
Mais moi, j'étais en province cette semaine, dans deux régions très différentes, et j'ai parlé avec le chauffeur de taxi. À 95%, ils étaient au diesel.
C'est en province.
En province, oui, c'est normal.
Mais merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin. Et chers auditeurs, c'est maintenant le moment de prendre congé de vous sur YouTube et sur X. Je n'entends pas. Voilà, merci. Cette traditionnelle musique qui accompagne d'habitude mon départ. Avant ce départ, quand même, nous avons besoin, mon cher Franck, d'argent.
Nous avons toujours besoin d'argent, mais rassurez-vous, ce n'est pas pour nos salaires à nous, mais pour faire fonctionner Radio Courtoisie. Vous en voulez un petit peu quand même.
Pourquoi pas, mais...
Pour aller sur soutenir.rc.fr, puisque ce sont seulement les auditeurs qui financent notre radio, Radio Courtoisie, qui est aussi la leur. Alors s'il vous plaît, puisque nous refusons la publicité pour votre confort d'écoute et pour notre liberté, rendez-vous sans tarder sur soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, et vous voyez, les studios, l'électricité, Franck, la diffusion, toutes ces choses-là, les antennes, ça coûte évidemment beaucoup d'argent, donc on a vraiment besoin de vous.
Et ça marche pas à l'essence.
Tout de suite, exactement, et tout de suite, on écoute eh bien, Xavier Maire qui nous parle du Liban sous les bombes d'Israël.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous retrouvons Xavier Maire. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonjour Liselotte.
On est ravis de vous entendre, Xavier, puisque vous êtes en réalité avec nous depuis le Liban. Je rappelle quand même que vous travaillez pour l'association Urgence Humanitaire et puis par ailleurs vous êtes chroniqueur indépendant. Aujourd'hui on vous reçoit donc pour parler de cette situation au Liban qui se retrouve sous les bombes israéliennes. On était habitués de toute façon ces derniers mois, ces dernières années à quelques tensions, certains bombardements même de la part d'Israël sur le Liban. Aujourd'hui on a l'impression d'être face à une nouvelle phase d'intensité. Comment est-ce que ça se passe sur place, Xavier Maire ?
Alors, sur place, actuellement, on est même survolé par un drone israélien. Ce sont des vols qui sont constants, hein, 24 heures sur 24. Il y a un drone israélien qui survole la ville de Beyrouth et le sud Liban de manière générale. Il y a des bombardements dans le sud de Beyrouth toutes les nuits. Donc on peut parfois les entendre depuis Ashrafi, le quartier chrétien historique. Et la situation empire malheureusement de jour en jour.
Est-ce qu'il y a une réponse des autorités sur place ? On sait que c'est toujours un peu compliqué, puisqu'on a le Hezbollah qui riposte d'un côté. De l'autre, on a les forces officielles qui, elles, se sentent souvent démunies. Comment est-ce que ça s'organise ?
Alors, l'armée libanaise s'est retirée de la frontière pour éviter justement d'être pris entre les feux. L'ONU, malheureusement, est inexistante sur place. Les seules autorités compétentes qu'on peut voir être actives dans le sud Liban, on peut parler notamment de la Croix-Rouge qui aide à l'évacuation des civils, mais sinon on va dire que les Libanais du sud Liban sont, on va dire, presque abandonnés par les autorités de manière générale.
Et alors, on voit qu'il y a certains civils qui refusent d'abandonner leur terre, leur maison, ce qui se comprend bien évidemment. D'un autre côté, on entend souvent sur d'autres chaînes d'information la bonne volonté des Israéliens de vouloir organiser ces déplacements de population libanaise. On est un peu surpris que ce soit présenté comme quelque chose de bienveillant quand il s'agit en fait de déplacer des gens avant de raser leur village. Mais voilà, quelles sont les impressions sur place de la part de ces populations qui se retrouvent sous les bombes ?
Le problème, c'est la situation des chrétiens dans le sud Liban. Il y a actuellement quatre villages chrétiens qui se trouvent le long de la frontière qui ont refusé d'évacuer leur village parce qu'ils souhaitent vivre sur leur terre. Mais malheureusement, on a appris hier le décès d'un prêtre dans un village qui a été touché par un missile israélien. Donc il y a aussi d'autres questions qui se posent, c'est la volonté de la part de l'armée israélienne de bombarder ces villages et ces quartiers chrétiens. Donc aujourd'hui on peut se poser la question de pourquoi bombarder ces quartiers. Il n'y a aucun intérêt stratégique à part peut-être une stratégie de monter le communautarisme et pousser même, je dirais, une guerre civile au Liban. Parce que le problème c'est que les chrétiens sont pris entre deux feux actuellement, et ces mêmes chrétiens peuvent être critiques vis-à-vis du Hezbollah et même de l'armée israélienne, parce que il n'y a pas de raison valable pour être aujourd'hui bombardé de bombarder ces villages actuellement.
On imagine que l'argument quand même déployé largement dans les médias par Israël et ses différents porte-paroles, c'est quand même la volonté d'éradiquer le Hezbollah. Il y a presque la présentation de cette mission comme une mission sacrée pour libérer le peuple libanais du Hezbollah. Vous nous parlez de ces villages chrétiens, on est d'accord qu'il n'y a aucun lien, aucun rapport entre ces villages chrétiens du sud Liban et le Hezbollah, ou est-ce qu'on est quand même en droit de penser qu'il y aurait certaines bases du Hezbollah ?
Il n'y a aucun lien entre ces villages et le Hezbollah. Je peux vous prendre pour exemple, le mois dernier, avec SOS Chrétien d'Orient, nous avons visité le village de Yaroun, qui est composé à 50% de chrétiens. Nous avons mis en place des panneaux solaires pour la paroisse, pour que 20 familles chrétiennes puissent retourner dans leur village. Il n'y avait que des familles chrétiennes à ce moment-là dans le village. Et le soir même de l'inauguration de notre projet, un commando israélien s'est introduit dans le village pour faire exploser une maison qui appartenait à une famille chrétienne. Le Hezbollah s'était retiré depuis le cessez-le-feu du village et l'armée libanaise avait pris place dans le village. Aujourd'hui, ce village est occupé par l'armée israélienne.
Est-ce que vous avez la sensation que aujourd'hui, Israël, dans ce bombardement du sud Liban et donc même de Beyrouth, vous le disiez, pourrait avoir la volonté en réalité de s'établir sur le territoire libanais? On le sait qu'il y a quelques mois, c'était quand même l'objectif affiché, de pouvoir contrôler cette zone du sud Liban. Est-ce qu'ils sont juste en train de pousser plus en avant cette stratégie de contrôle territorial du Liban?
Ils étaient déjà dans une phase de colonisation, ils avaient commencé à construire un mur sur le territoire libanais. Quand nous y étions il y a quelques semaines, des habitants nous avaient relaté des événements comme le fait d'avoir des avions qui bombardent du glyphosate et des produits chimiques sur les champs d'oliviers. On a par exemple ce genre de faits qui ont été relatés. Et puis il y a aussi autre chose, c'est parler des violations du cessez-le-feu depuis le 27 novembre 2024. On a près de 10 000 violations qui ont été recensées par les autorités libanaises et par l'ONU sur place. Donc c'est bien beau de vouloir pointer du doigt les méfaits du Hezbollah, mais il faudrait aussi rappeler que derrière, la majorité des violations ont été commises par l'armée israélienne. Ces violations sont de divers types, on a des survols aériens, des tirs d'artillerie, des frappes aériennes, des incursions terrestres près de la frontière, des activités militaires dans des zones contrôlées par l'ONU. Il y a même depuis 2023 une vingtaine de casques bleus qui ont été blessés par des tirs israéliens. Donc il serait peut-être temps aussi de pointer du doigt ces méfaits dans la zone.
Alors, on a appris également hier que l'ONG Human Rights Watch, désolé pour l'anglais, chers auditeurs, mais enfin, c'est un nom propre, je ne vais pas réinventer le nom de l'ONG, que cette ONG dénonçait Israël pour avoir utilisé du phosphore blanc, des munitions au phosphore blanc au-dessus du Liban. Je ne sais pas si l'information a circulé au sein de la population libanaise. Mais on imagine que toutes ces violations justement du droit international, y compris dans le choix de certaines munitions, ça aurait tendance effectivement à cristalliser une forme de nationalisme libanais assez hostile à Israël. Dans quelle mesure est-ce que ce ne serait pas un argument précisément que chercherait Israël pour pouvoir dire, une fois cette hostilité affirmée, qu'il y a nécessité de s'en prendre au Liban de façon générale?
Mais le problème, c'est qu'on a justement tous ces faits qui sont remontés. J'ai bien vu ces informations hier soir concernant l'utilisation de phosphore blanc dans le sud Liban. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a certains journalistes et hommes politiques qui ont dit qu'il fallait renforcer la FINUL dans le sud Liban. Mais bon, si c'est pour qu'elle reste terrée dans ses casernes et qu'elle n'intervienne pas et qu'elle ne soit pas une réelle force d'interposition, il n'y aura pas de changement réel. C'est bien ça le problème actuellement. Surtout que même l'armée libanaise a dû justement se retirer de ces zones pour éviter d'être pris à partie dans ce conflit.
Oui. Alors vous, malgré tout, Xavier Maire, vous faites partie des rares associations humanitaires qui vont essayer d'aider la population sur place. On peut revenir d'ailleurs un instant là-dessus, encore une fois. Silence assourdissant de la part des plus grosses associations qu'on attendrait pourtant sur le terrain.
Ah, peut-être qu'il y a une volonté de ne pas venir aider sur place non plus, étant donné le contexte du conflit. Aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 520 000 déplacés qui viennent pour la plupart du sud Liban, de la Béka et du sud de Beyrouth. Aujourd'hui, le quartier historique chrétien de Beyrouth est encore assez préservé par l'afflux de déplacés, à part des chrétiens, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on dénombre 520 000 déplacés et plus de 100 000 déplacés qui ont été pris en charge par le gouvernement. Et malheureusement, cette situation risque d'empirer. On parle aujourd'hui d'une réelle crise humanitaire sur place.
Comment vous vous organisez, vous, avec Urgence Humanitaire? Concrètement, quelle est votre action en ce moment sur le terrain?
Alors pour le moment, nous réalisons des évaluations. On va aider 3 centres d'accueil. C'est de pouvoir accueillir ces personnes dignement en leur remettant des kits hygiéniques, des colis alimentaires, et également aussi les aider sur la question alimentaire. Il y a des cantines qui ont été mises en place qui distribuent des plateaux repas. Donc on va essayer de les aider dans les jours qui viennent.
Ouais, bon, donc les besoins vitaux avant tout dans ce genre de conflit, et on imagine que donc vous allez vous mobiliser autour de ça tout en devant vous adapter à une situation qui est extrêmement instable. Vous l'avez rappelé en début d'entretien, on a ces drones qui survolent la zone, donc un climat extrêmement anxiogène. Est-ce que vous attendez, vous, une réaction de la part de la France et d'Emmanuel Macron? On le rappelle souvent, mais le Liban et la France sont souvent présentés comme étant très liés. Est-ce que vous attendez une déclaration, une action même de la part d'Emmanuel Macron?
Une action, il faudrait déjà que les forces françaises qui se trouvent avec l'ONU dans le sud Liban agissent contre les agissements et les violations qui sont commises par l'armée israélienne. À partir de ce moment-là, on ne pourra pas avoir de respect vis-à-vis des Libanais, parce qu'ils le voient très bien, hein, que c'est une armée qui est présente sur place, mais qui n'a aucune utilité et qui peut malheureusement rien faire, hein. Ils ont pour consigne et ordre de rester enfermés dans leur caserne, de ne pas riposter. Donc le problème, c'est... ça serait d'affirmer justement notre présence sur place et faire en sorte qu'elle puisse faire son travail dignement.
Merci beaucoup Xavier Maire d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bien du courage, et encore plus aux Libanais que vous pourrez rencontrer sur place donc pour les jours à venir. On espère quand même que le Liban ne sera pas cette victime collatérale qu'il est déjà. Et puis surtout, on espère une mobilisation internationale un peu plus unanime derrière la cause des Libanais, qui se retrouvent encore une fois quand même bombardés par Israël pour des raisons et des arguments qui sont parfois un petit peu troubles. Merci beaucoup Xavier Maire. Et puis je vous dis voilà, à très bientôt. Je rappelle que vous travaillez pour Urgence Humanitaire, qui s'engage sur ce type de terrain pendant les conflits. Donc on vous remercie pour ça aussi.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. Mais il va falloir que vous fassiez un petit peu plus que nous écouter.
Oui, enfin, en tout cas, pour ceux qui ne le font... En tout cas, pour ceux qui aident Radio Courtoisie, vous pouvez continuer à écouter et on vous remercie. Pour ceux qui écoutent sans payer, bah, merci de faire un geste, si vous le pouvez, bien sûr, en allant sur soutenir.rc.fr, faire un don à Radio Courtoisie, c'est lui permettre son indépendance totale, comme
Voilà, mais même les plus petits dons, hein, vraiment, sont toujours très appréciés. C'est une marque de soutien aussi qui nous fait très plaisir. Dites-nous, Franck, quel est le programme du jour ?
Dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour le dictionnaire thérésien à l'occasion du centenaire de sa canonisation. Midi, le libre journal des Beaux-Arts de Michel Colombin. Aujourd'hui, Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'hôpital Gagnant. À 16h, Planche, Cage, Zébul de Richard de Sèze. 16h30, le RC Mag de Jean-Étienne Posa. Aujourd'hui, Transition cachée. À 17h, Populaire, vous avez dit Populaire, consacré à Sacha Guitry. 17h30, Tout va mal et ça ne va pas s'arranger dans Restons courtois avec Richard de Sèze. 19h30, le libre journal de la francophonie heureuse d'Antoine Assaf. 21h30, le libre journal de la réaction dirigé par Hilaire de Crémier.
Voilà, et puis demain nous recevrons notamment Jean-Yves Le Gallou, donc soyez bien présents chers auditeurs, et ce sera une nouvelle matinale à laquelle j'aurai plaisir de participer. Merci beaucoup.
Bonne journée à tous et à demain, 7h.